Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous invite encore une fois cette semaine à marcher vers le bien-être. Nous recevons aujourd'hui Denis Dumay. Il est un grand marcheur, un membre très actif de l'Association du Québec à Compostelle et un bon ami de notre émission pour y avoir participé à quelques reprises. Au cours de notre entretien aujourd'hui, Denis nous racontera sa plus récente aventure, soit un cheminement de 70 jours sur le chemin de Compostelle à l'occasion de ses 70 ans. Une merveilleuse et unique façon d'amorcer la 7e décennie d'une vie déjà bien remplie. Denis nous parlera également des profondes transformations qui se sont opérées en lui depuis son tout premier Compostelle en 2014. Nous aborderons aussi d'autres sujets liés à Compostelle, dont les plus récentes activités de l'Association du Québec à Compostelle, toutes pour soutenir celles et ceux qui veulent entreprendre le chemin pour une première fois ou encore en mieux revivre l'expérience. Alors, bienvenue à Marcher vers le bien-être, Denis, et merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous pour une autre inspirante conversation, comme toujours.
Merci pour votre accueil.
Alors, Denis, c'est donc en 2014 que vous avez pour la première fois parcouru le chemin de Compostelle et vous avez récidivé en 2017 puis 2018 pour en reprendre la route une quatrième fois en 2023. Vous en avez tiré d'importantes leçons de vie que vous avez d'ailleurs rassemblées dans un merveilleux ouvrage personnel, un album de photos et de textes intitulé « Audace et abandon ». On peut d'ailleurs écouter votre récit en consultant l'épisode 5 de la première saison de Marcher vers le bien-être sur le site jemarchepartout.com. Il me semble, Denis, que ce titre « Audace et abandon » résume bien l'esprit dans lequel vous a plongé le chemin, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est bien particulier, dans le fond, ce titre-là, parce que j'ai travaillé avec un ami au niveau de la mise en page. De toute façon, c'était pas mon intention, avant de partir en 2014, d'arriver à un livre. C'est mes amis avec qui j'ai correspondu tout au temps de mon aventure qui m'ont dit, ben, Denis, il faut que tu fasses quelque chose avec ça. Je leur avais envoyé des photos, des réflexions, des textes. Mm-hmm. Donc, celui qui m'a aidé au niveau de la mise en page, à un moment donné, on était pas mal avancé. Là, on n'avait pas de titre. Oui. Et lui, il s'est dit, ben, écoute, Denis, puis il avait jamais marché Compostelle, mais il dit ce que je retiens, c'est ces deux mots-là, audace et abandon. Puis j'ai tout de suite acheté ça. Puis effectivement, c'est avec ces deux mots-là que je continue, je dirais, ma démarche, mon itinéraire. Pour moi, dans le fond, l'audace, c'est l'élan qui t'amène à te lancer, à plonger dans la piscine. Donc, ça prend une audace pour sortir de sa zone de confort. Mmh. Et je dirais que l'abandon, ça décrit ou ça qualifie un peu l'expérience elle-même. Donc, l'ouverture, la générosité avec laquelle on s'y engage. Donc, à la fois, une expérience de Compostelle, des fois, je fais le parallèle dans le fond. Quand on va à la découverte comme touriste, c'est tout à fait correct. On est des touristes aussi. Mm-hmm. Donc, on s'organise des visites. Alors que l'expérience de pèlerinage, c'est qu'on souhaite être visité. Donc, je trouve, et que pour être visité, ça demande une certaine dose d'abandon. Donc, audace et abandon, pour moi, ça qualifie bien, je dirais, l'essence de cette expérience-là.
Ben, en fait, j'ai eu le privilège et le plaisir, bien sûr, de parcourir votre ouvrage « Audace et abandon ». Il me semble qu'il se dégage, à mon point de vue, certaines grandes leçons de vie, ou en fait, ou des découvertes. J'aimerais que vous les résumiez en commençant par une expérience qui est d'une certaine manière, je crois, la plus importante, celle qui permet l'éclosion des autres, c'est-à-dire épouser la lenteur. Il faut ralentir.
Oui. Ben d'ailleurs, c'est ça un peu qui est particulier. Lorsqu'on décide de partir à pied, bien évidemment, on est aux alentours de 4,1 km/h. On est habitué de voyager vite. On réclame des TGV, on voyage en avion, on voyage en automobile. Et là, on est un peu pris de court en disant, oh là là, c'est pas du tout le même rythme, cette lenteur-là.
Tout ralentit.
Mais en même temps, la lenteur la plus difficile à vivre et à apprivoiser, bon, il y a la lenteur physique, là, on marche, etc. Puis donc, le paysage se déroule à un certain rythme autour de nous. Mais intérieurement aussi, le petit hamster, il va parfois très vite. Hein. Donc, cette lenteur-là, je dirais que la première va assez bien, mais cette deuxième-là n'est pas toujours facile. Donc, c'est ça, il y a une certaine dose là, de rythme à apprivoiser et c'est jamais acquis une fois pour toutes. Là. Je veux dire, on vit tellement dans une société où tout va vite.
Oui.
Donc, apprivoiser la lenteur, c'est toute une aventure, toute une expérience et ça demande beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence envers soi-même.
Et ça prend combien de jours?
Est-ce
qu'on peut calculer en termes de jours?
Non, c'est difficile de calculer, mais en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que souvent les premières journées, et d'autant plus avec un premier chemin, tout est à apprendre. T'apprends à gérer ton quotidien, à faire ton lavage, la nourriture. Souvent, ben aussi, c'est les premières journées où là, t'as des maux physiques, tu peux avoir des ampoules. Donc là, il y a tout un...
C'est la gestion.
Il faut apprivoiser ce que j'appelle le rituel du quotidien des premières journées. Oui. Tout se déroule lentement, mais à un moment donné, avant, là, je dirais, de bien comprendre la mécanique du rythme qu'on doit dorénavant épouser. Mais en même temps, c'est ça qui est extraordinaire, parce que ce rythme-là te permet d'avoir ce que j'appelle des liaisons neuves, un avec toi-même, mm-hmm. un avec l'environnement, un avec les autres, puis peut-être dans certains cas avec le tout autre. Donc, je me dis, le rythme aussi est la condition de base mm-hmm. pour te permettre de goûter pleinement l'expérience que tu es en train de vivre.
D'ailleurs, c'est la première grande leçon, comme on disait tout à l'heure, et la deuxième, c'est peut-être pas la deuxième comme telle, mais une autre grande leçon, c'est d'apprivoiser la solitude.
Oui, oui. Qui était de la solitude qui n'est pas un isolement, c'est pas un enfermement sur soi, cette solitude-là, c'est une solitude qui demeure quand même ouverte à ce qui t'arrive. Donc, on a tendance des fois à vouloir se créer une genre de petite bulle, de petit cocon, peut-être pour éviter, dans le fond, trop de distractions, pour de temps à autre, je dirais, arrêter. On marche, on arrête, un genre de stopping, comme on dit, et pouvoir un peu revenir un peu à ce qui était l'essentiel. Parce qu'avant de partir, dans le fond, l'élément important, oui, bien évidemment, c'est de se préparer au comment vivre, donc de s'informer, d'apprendre des choses, d'avoir les bons équipements, les bonnes informations et tout et tout. Mais aussi, c'est pourquoi. Donc, non seulement travailler le comment, mais travailler le pourquoi. Donc, c'est quelque chose d'important. Donc, de temps en temps, lors de notre marche, de pouvoir s'arrêter pour pouvoir un peu aussi faire le lien avec... parce que dans le fond, c'est au cœur de la solitude, souvent, qu'on a un peu médité au pourquoi je voulais entreprendre cette expérience-là, à cette étape-là particulière de ma vie. Parce que moi, dans mon cas, moi, celle de 2014, c'est en lien avec une expérience de retraite que j'amorçais. Mais à un moment donné, tu pars, pour certains, ça sera après un deuil, pour certains, ça sera à partir d'autres genres d'élan. Donc, c'est important de revenir à ce que j'appelle cet objectif initial-là, qui donne un sens à tout le reste. Donc, de temps en temps, parce qu'il se passe plein de choses sur le chemin, plein de découvertes que l'on fait, on rencontre des gens, on se retrouve dans des situations inédites. Donc, de pouvoir arrêter un petit peu la machine, même lorsque tu es en train de faire le chemin, pour te replonger ou te reconnecter sur cet essentiel de ton expérience qui continue, dans le fond, avec laquelle tu chemines tout au cours de ces journées-là.
Les événements inédits, vous venez de le dire, ça me fait penser à une autre phrase dans votre bouquin. J'aime beaucoup l'expression que vous avez couchée sur papier. Les hasards, ou plutôt ce que vous appelez les coïncidences significatives. J'adore l'expression. J'imagine que lorsqu'on marche pendant des kilomètres, des jours, des semaines, on en voit de ces hasards ou coïncidences significatives.
Puis souvent, ils se manifestent, ce que j'appelle au ras des pâquerettes. Donc, dans des petites choses du quotidien. Dans certains récits de voyage, les gens vont parler de synchronicité.
Oui.
Donc, ils ont l'impression qu'il arrive quelque chose, puis, mon Dieu, mais c'est souvent des petites choses. Mais qui sont tellement particulières parce que, bon, d'une part, j'ai l'impression qu'après avoir marché un certain nombre de jours, il y a une ouverture qui se crée. Ce que j'appelle des fois aussi, quand j'essaie de qualifier mon expérience, je me dis, il s'était créé au fil des ans dans ma vie professionnelle ou autre, ce que j'appelle... C'est comme si le sentier entre la tête et le cœur était monté en jachère. Puis l'expérience de Compostelle, dans le fond, j'avais l'impression d'avoir un peu une faux. Puis tranquillement, je désherbais ce sentier-là pour qu'il devienne plus fluide, pour que l'enfermement dans un genre de rationalisme ou de j'avais l'impression d'être un petit peu parfois enfermé. On essaie de comprendre le monde avec notre tête, ce qui est pas mauvais. Je suis loin d'être contre ce genre d'apprentissage-là. Mais en même temps, des fois, on a besoin de le comprendre avec le cœur. Donc, il faut qu'il y ait entre le cœur et la tête cette ouverture. Mais parfois, effectivement, au fil des années, le sentier est comme bloqué. Fait qu'il faut, une expérience comme Compostelle permet de réouvrir ce petit sentier-là pour avoir, je dirais, un lien différent avec le monde qui nous entoure. Donc, avoir aussi un regard différent, avoir une compréhension nouvelle de cette vie-là et d'avoir, à partir du moment où tu en as une expérience nouvelle ou un regard nouveau, d'avoir aussi ce que j'appelle une gratitude envers cette vie-là qui coule en abondance dans nos veines, qui coulent en abondance autour de nous. Donc,
Et de répéter Compostelle, ça vous permet justement de nettoyer ce sentier régulièrement.
De garder le sentier ouvert.
De garder le sentier ouvert, voilà.
Parce que les repousses sont...
parfois rapides.
parfois rapides, effectivement. Parfois sournoises, ces repousses-là.
Et c'est aussi la lenteur et la solitude qui permet justement à ces hasards d'éclore, n'est-ce pas?
Oui.
On les verrait pas autrement.
Effectivement. Puis, en fait, ça revient avec ce qu'on disait au début quand on parlait de... Oui, effectivement, à un moment donné, quand tout va trop vite, tandis qu'avec ce rythme-là apprivoisé, là, c'est comme s'il se développe un genre de vigilance, d'acuité du regard par rapport à ce qui t'arrive. Et c'est là que des choses qui t'apparaîtraient dans la vie toujours tout à fait banales et ordinaires, tu leur donnes un sens nouveau, tu les apprécies autrement, tu les goûtes autrement. Donc, c'est...
Il y a une autre expression que j'aime beaucoup. Par moment, vous avez le vertige, en marchant bien sûr, mais c'est pas le vertige que l'on pourrait comparer à les hauteurs d'une tour Eiffel ou d'une tour du CN ou quoi que ce soit. Vous dites c'est un vertige qui donne des ailes. Oui. C'est beau.
Oui, parce que le vertige dont vous parliez tantôt, c'est souvent un vertige qui paralyse et qui amène une peur. Une peur de souvent d'un certain
paralysie. Temps,
tu deviens phobique, tu ne peux plus avancer. Tu regardes en bas, tu dis, non, je ne suis plus capable d'avancer. Alors que l'autre genre de vertige, ça demeure un vertige parce que tu deviens conscient de tout ce à quoi la vie t'invite en termes de transformation, de changement. Tu dis, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Mais en même temps, c'est un vertige aussi qui ouvre la porte à un genre d'envol en disant, ben oui, je vais être capable. Donc, qui permet une confiance nouvelle à nos capacités de faire les choses autrement, de s'envoler vers autre chose. Donc, ce qui pourrait nous apparaître inaccessible devient tout à coup possible en se donnant les conditions, en se donnant du temps, en acceptant de parfois, comme je dis, pour prendre un exemple du chemin, en acceptant parfois de faire transporter ses bagages. Donc, accepter que les gens autour de toi peuvent t'aider aussi à entreprendre une démarche ou à t'aider à aller de l'avant. Donc, c'est souvent une confiance, dans le fond, une confiance retrouvée qui nous donne des ailes.
Dites-moi, Denis.
Et qui permet un envol.
Ben, j'allais dire, est-ce qu'on prend goût au vertige? Trop de questions. Hein?
Ah ben oui.
On prend goût au vertige.
Oui, tout à fait. Ça devient un peu un genre d'adrénaline. Là. C'est comme si on dit « ouh ». Ben, enfin, je pense que les gens qui font des sports extrêmes pourraient nous parler de cette soif de vertige. Vraiment, dire, pourquoi ils se mettent dans des conditions comme ça? Ben, ils se mettent dans des conditions comme ça parce qu'ils retrouvent quelque chose qui les sort de leur quotidien et qui leur permet peut-être d'accéder à un nouveau palier. Tu sais, notre vie, c'est un peu un cheminement, un long chemin.
Oui, oui.
Toutes les expériences que l'on vit, ce n'est que le tome 1, 2, 3, 4. Là. Donc, on arrive à un certain palier. Ça nous permet d'accéder à un certain palier, d'accepter aussi cet inconfort-là, parce qu'effectivement, on prend un certain risque en se mettant en danger, d'une certaine façon.
Oui, tout à fait.
Et en même temps, se mettant en danger, c'est souvent ce qui nous ouvre la porte pour pouvoir vivre autrement, vivre autre chose et pour prendre son envol, pour accéder à ce nouveau palier.
Alors, vos Compostelles, vos chemins de Compostelle, vous ont aguerri, n'est-ce pas? On en est aujourd'hui, on va parler de votre quatrième, parce que c'est celui qui nous interpelle davantage. Donc, comme je le disais, vous êtes bien aguerri plutôt au chemin, au point de vue physique, matériel, logistique. Vous connaissez tout de ce côté-là, ou presque. Là. Ben, je le souligne parce que vous avez mis à profit ces connaissances et celles de nombreux collaborateurs en réalisant un excellent guide sur Compostelle avec la maison Ulysse. On en a parlé déjà à un autre épisode de Marcher vers le bien-être, mais je propose ici une parenthèse parce que j'aimerais souligner que ce guide Ulysse Compostelle réalisé ici chez nous est vraiment un succès de librairie. Il y a environ 4000 exemplaires qui se sont vendus et c'est vraiment exceptionnel, surtout pour en fait un guide de voyage et une réédition est en vue pour l'automne 2024. J'aimerais que vous nous expliquiez la raison du succès, peut-être la nature de ce guide, mais pourquoi c'est si populaire, vous pensez?
Ben, d'une part, je pense que c'est très directement en lien avec la popularité de l'expérience elle-même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le guide est sorti en 2021. Mm-hmm. Donc, qu'est-ce qu'il y avait en 2021? On n'était même pas encore sorti, je dirais, de la période pandémique comme telle. Et après la période, on le voit au niveau des chiffres, parce que là, il y avait eu effectivement en 2020, même en 2021 encore, une baisse assez drastique sur le nombre de personnes qui allaient marcher sur les routes de Compostelle, bien évidemment, mais aussi en même temps, tout de suite après, les gens ont eu le goût d'entreprendre le voyage. Donc, j'ai l'impression que c'est directement aussi en lien avec ça. Peut-être aussi, sans vouloir être prétentieux, mais j'ai l'impression que la façon qu'on a construit ce guide-là, son originalité a fait en sorte qu'il y a beaucoup de guides d'accompagnement. Donc, les guides avec lesquels tu pars, il y a le miam miam de dos, les guides repères.
Où aller, quoi faire,
le père, etc. Ça, il y en a beaucoup. Oui. Mais il y avait peut-être pas beaucoup de guides. Ce que j'appelle, c'est un guide de présentation. Donc, il essaie, dans le fond, de faire le tour de l'expérience, autant dans l'avant, le pendant, l'après, le retour. Donc, il y a beaucoup d'éléments fait que j'ai l'impression que son originalité a peut-être aussi, et l'autre élément qui est pas négligeable aussi, c'est ce que j'appelle le volet communautaire. Donc, c'est plusieurs personnes qui ont mis la main à la pâte et qui ont écrit et qui ont accepté très généreusement de mettre leurs expertises, leurs connaissances. Et là, je dirais que cet élément-là, le fait que l'auteur soit une association, d'une certaine façon, avec les 25 ou 30 personnes qui y ont contribué, ça donne aussi un petit piment particulier à l'expérience. J'espère que les gens l'ont apprécié, l'ont beaucoup aimé. Il y a aussi, bien évidemment, comme dans n'importe quoi, le bouche à oreille. Donc, étant donné qu'il y avait 25 ou 30 personnes qui avaient contribué, ils en ont parlé autour d'eux. L'association en a parlé autour d'eux. Ulysse en a parlé à ses différents partenaires en Europe, parce qu'il faut savoir que Ulysse
c'est vendu en Europe.
Vendu en Europe aussi. Oui. Donc,
dans le monde francophone.
Oui, puis d'ailleurs, j'étais très heureux à un moment donné cet été. Et là, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais au gîte du Pèlerin de Bordeaux. Puis, je regarde dans leur librairie, le guide s'y trouvait. Fait que ça fait toujours plaisir.
Quelle différence y a-t-il dans la nouvelle mouture, si on veut, du guide que l'ancienne?
En fait, il y a un premier niveau qu'on souhaitait, et les gens du Lys aussi, améliorer au niveau de la grosseur de caractère, au niveau de la typographie. D'ailleurs, parce qu'un des commentaires qu'on avait, il faut dire que l'association, la moyenne d'âge de nos membres sont ce qu'ils sont. Donc, ça suit un peu la société québécoise au niveau démographique. Donc, les gens se disent, il me semble que c'est un petit peu petit. Donc, la prochaine édition à ce niveau-là va être nettement améliorée. Donc, ça va être un plus. L'autre élément, je parlais tantôt de la pandémie. Je pense qu'il fallait aussi revisiter les différents chiffres qu'on avait en disant, il y a peut-être des éléments nouveaux suite à la période pandémique par rapport à l'expérience de Compostelle. Donc, il faudrait peut-être écrire les choses autrement. Donc, on va en tenir compte. Et on a identifié avec les gens du Lys certains ajouts. Je peux peut-être en signaler juste un. Là, à un moment donné, on s'est dit, on parle pas beaucoup. Il y a beaucoup de focus mis sur le pèlerin lui-même. Bon, comment il vit son expérience au quotidien, comment il s'y prépare, comment il revient. Mais on parlait jamais de ses proches. Quand tu parles pour l'expérience de Compostelle, bon, certaines personnes ont des conjoints, ils ont des enfants, ils ont des amis, ils ont des réseaux. Ça peut peut-être dire un mot sur comment ça se vit, un départ de un mois, deux mois, puis que tu laisses tes gens. Comment ces gens-là vivent ça et comment toi tu vis le rapport que tu as avec tes proches quand tu es sur le chemin? quand tu reviens, oui, quand ça. Tu pars, ouais. Comment tu annonces ça à ton ami proche que tu t'en vas pour un mois, il peut se sentir abandonné. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments. Donc, il y aura d'autres éléments, mais celui-là oui. en fera partie aussi.
On va y revenir tout à l'heure, bien sûr. La nouvelle édition est prévue pour septembre 2024. Voilà, excellent.
On y travaille.
assidûment. Oui. Alors, dans quelques minutes, nous allons prendre une pause musicale, comme d'habitude. Mais juste avant, j'aimerais vous entendre parler de votre motivation pour votre, comment je pourrais l'appeler, le Compostel 70. Vous êtes revenu de vos trois premiers, plein d'entrain, etc., etc. Et vous avez décidé un jour de, tiens, pourquoi pas un quatrième et pourquoi pas 70 jours? Alors,
un petit mot là-dessus.
J'ai vendu la mèche un peu, là, mais...
Oh, oui. Mais d'ailleurs, en blague, là, pour, puis tous les pèlerins, pèlerines, dans le fond, qui y retournent plus d'une fois, souvent, ils se font dire autour d'eux, bon, y a-tu quelque chose que t'as pas compris? Tu vas devoir y retourner 2, 3, 4, 5 fois. Puis il y en a qui... puis là, souvent, le lien que je fais, moi, c'est mes plantes vivaces, c'est les plantes naturelles. Je dis, ben, mes premières expériences, j'ai vu des fleurs, j'ai vu des belles choses, j'ai été émerveillé. Mais à un moment donné, cet émerveillement-là m'a conduit à vouloir, dans le fond, mettre dans mon jardin des plantes vivaces. Donc, je dirais d'enraciner mon expérience. Donc, de la rendre plus pérenne, plus permanente. Donc, c'est ça qui m'habitait ou qui m'habite, là, pour vouloir y retourner. Pour ce qui est de la quatrième fois, ben, je me suis dit, ben, quoi, c'est une expérience qui donne du sens dans ma vie, qui me passionne. Puis souvent, quand on célèbre des dizaines, je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais faire pour mes 70 ans? Bon, ben, il y en a qui pourraient dire, ben, moi, je vais faire quelque chose, je vais inviter des amis, etc. Ben, je me dis, oh, il me semble qu'il y a un lien à faire avec Compostelle. Et c'est lors d'une marche sur le Mont-Royal. À un moment donné, il y a quelqu'un qui venait d'arriver de son premier chemin, puis il était tout émerveillé. Puis là, ben, il me racontait son expérience, puis il me dit, Denis, il dit, j'ai l'impression que quand on est sur les routes de Compostelle, une journée, c'est comme une année.
Ouh!
Et là, il y a eu comme un petit flash qui s'est fait. Lui, une journée, c'est comme une année, ça veut dire que si je marche 70 jours, ça va être comme 70 ans. Donc là, j'ai réfléchi à ça, puis comment faire vivre ça. Donc, c'est comme créé. Puis là, ben là, j'ai dit, ben oui, je vais marcher 70 jours pour me fêter, pour célébrer, dans le fond, ce passage-là. Pourquoi pas marcher 70 jours? Pourquoi pas vivre une expérience qui me passionne et qui me rend heureux?
Et entretenir votre jardin.
Tout à fait, avec des vivaces.
Alors, cette fois, nous prenons une courte pause musicale et j'ai une autre question, évidemment, à vous poser. Nous sommes de retour avec Denis Dumais et son Compostel 70. Denis, vous avez parlé, en fait, vous avez soulevé une question très importante tout à l'heure. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous étiez prêt, encore une fois, au niveau physique, mental, logistique et tout, là, vous étiez aguerri à l'aventure Compostel. Mais tout à coup, vous est venue la question, pourquoi? Pourquoi vraiment je le fais? Et ce que je trouve intéressant, vous êtes allé dans un monastère, le monastère Val Notre-Dame à Saint-Jean-de-Mata, qui est très, très joli, pour préparer, je dirais, spirituellement votre Compostel 70. Parlez-nous un peu de cette expérience quand même assez unique.
D'ailleurs, que je fais à chaque fois. C'est-à-dire, à chaque fois que je pars pour Compostelle, c'est une tradition, un rituel que j'ai de me retrouver pour 3-4 jours dans un monastère. Et cette fois-ci, donc, encore. Et d'autant plus, je dirais... Et le lien se fait facilement parce que, bon, une part, souvent, j'ai l'impression que quand je pars pour Compostelle, il y a comme un appel du chemin. Là. Il y a comme quelque chose de fort. Bon, les moines aussi font souvent référence lorsqu'ils parlent de leur expérience monastique à un appel qu'ils ont reçu. Mais au-delà de ça, Puis cette fois-ci, c'est là que j'ai fait un lien plus étroit entre mon expérience de Compostelle et le séjour au monastère. C'est que non seulement pour eux, c'est un appel, mais c'est un exercice qui est très quotidien. Les moines prient 7 fois par jour. Je dirais que c'est un quotidien qui est très ritualisé. Il y a du travail manuel, il y a des prières, il y a de la méditation, il y a de l'accueil des gens de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses. Et je me disais, aussi Compostelle, c'est quelque chose de très dépouillé au niveau du quotidien. Quand tu marches Compostelle, là, ça se résume à, tu fais ton sac à dos, tu fais ton lavage, tu manges. Donc, tu reviens, je dirais, à une simplicité dépouillée des artifices. Et je trouve que la vie monastique va beaucoup dans ce sens-là, avec aussi une vie qui est toute consacrée à la recherche du plus grand que soi. Donc, qui est toute tourner vers l'intériorité. Donc moi, quand je marche l'expérience de Compostelle, souvent je la marche seul, la plupart du temps, et c'est souvent un peu cet élément-là de quête d'intériorité qui est directement en lien avec le pourquoi de mon expérience. Oui, bien évidemment, dans le pourquoi, il y a découvrir des paysages nouveaux, rencontrer des gens, mais essentiellement, ce qui est le plus profond, c'est de vouloir cheminer, dans le fond, en invitant avec un genre de lien particulier, et les moines nous invitent à ça, avec l'instant présent.
Oui.
Pour découvrir un petit peu de ce qui est l'essentiel de ce qui est, de ce que nous sommes. Donc, je trouve que les moines, il y a une invitation, puis je trouve qu'il y a une très bonne connexion avec ce que peut être pour moi. Là, il n'y a pas de loi universelle. Pour moi, ce qui est l'essentiel de mon expérience de Compostelle. Donc, les moines, dans le fond, préparent bien la terre. C'est pour ça qu'en en le vivant avant de partir, c'est comme si ça me donne un élan qui me rappelle, puis quand je m'arrête à différents moments sur le chemin, je me dis, mais pense à ton séjour au monastère, là, reviens à ça lorsque...
Ben justement, est-ce que vous pourriez nous décrire brièvement les principales étapes de votre période de préparation?
De mes 70 ans. Là,
de vos 70 ans.
Après le flash initial, je me suis dit, bon, là, le premier mouvement que j'ai dit, je vais essayer d'en profiter d'une certaine façon pour faire un genre de retour sur ma vie. Fait que je me suis fait un calendrier et là, j'ai divisé mes 70 ans en 10 périodes de 7 ans. Donc 0, 7 ans, 7, 14 ans, etc. Et là, j'ai essayé d'identifier un peu spontanément, parce que je ne veux pas non plus en faire une expérience là, de psychanalyse ou de quoi que ce fût de cet ordre-là. Donc, identifier des personnes qui ont été marquantes, des événements marquants, des émotions que j'ai pu vivre, des réussites comme des échecs, etc. Donc, je me suis retrouvé avec un tableau, mais je voulais à tout prix, faire ce travail-là avant. Parce que je ne voulais pas non plus... Parce que pour moi, dans le fond, quand je me retrouve sur le chemin, c'est une expérience, comme je disais tantôt, au ras des pâquerettes, qui est beaucoup plus proche de mes sens. Donc, je voulais pas en faire une expérience réflexive là sur le sens de ma vie, etc., etc.
Oui.
Donc, c'était pas de ce temps-là, mais je voulais faire le travail avant.
Oui.
Donc, c'est ce que j'ai fait. En faisant le travail avant, ça me permet, dans le fond, de faire ce tableau, de me plonger un peu, de me donner du temps pour... Pour essayer de prendre toute la mesure, dans le fond, de ce que ça avait été les étapes, de voir que c'est un chemin, que c'est un...
Parce que vous avez quand même passé, quoi, 4 jours, 5 jours au monastère?
4-5 jours, oui.
4-5 jours.
Mais le travail, je l'avais commencé bien avant le monastère, là.
Oui.
Tu sais, pendant les mois qui ont précédé, là, j'avais mon tableau. De temps en temps, passais une demi-heure, puis là, je me disais, 0 à 7 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, y a-tu des personnes qui ont été marquantes, qui ont été significatives? Fait que là, j'ai comme... Ça m'a permis, dans le fond, un exercice presque de mémoire. À 70 ans, des fois, notre mémoire, il y a des petits blancs, là. Fait que je me dis, bon, où j'étais? Puis des fois, je me trompais des dates, là. Je me dis, en 1972, c'est-tu en 72 ou 73 que je suis allé en Europe? Puis, Fait que c'était aussi un exercice intéressant à ce niveau-là, premier niveau. De mettre un peu au centre de la table. Donc, c'est comme j'ai mis la table.
Parce que, comme vous dites, il faut préparer la famille, la conjointe. En fait, en amont, ça fait partie du travail.
Oui, puis après ça, c'est de trouver l'itinéraire qui pouvait correspondre aussi avec avec l'expérience. Ça fait partie aussi là, des décisions qui sont à prendre avant de partir. Donc, il y a non seulement faire le tableau, mais tu dis, cette année, je vais aller où? Je vais faire quoi?
Oui. Puis là, ben, en fonction de ma réflexion.
Bien entendu, vu que c'était mon quatrième chemin, je connais un peu plus ce que j'ai le goût de vivre, oui. Type d'itinéraire. Bon, vu que j'aime les chemins moins fréquentés, qui donnent plus de place à l'intériorité, donc je me suis tricoté un chemin qui n'était pas un chemin traditionnel. Donc, j'ai fait comme des tronçons. Donc, j'ai comme... Je suis parti de Bordeaux à Dax, qui est comme le chemin de Tours. Ensuite, j'ai bifurqué vers Bayonne, le littoral. Arrivé à Irun, normalement, les gens, la majorité continue vers le Nortais. Moi, j'ai pris un chemin presque inconnu, là, que je connaissais même pas avant de préparer mon chemin, qui s'appelle le Vasco de l'Intérieur, qui m'a mené jusqu'au Camino Francés que j'avais fait en 2014. Et là, j'ai continué jusqu'à l'Atlantique. Oui. Puis après ça, je suis allé... Ce qu'il faut dire, dans le fond, ça fait partie des préparations parce que j'ai une conjointe.
Oui, mais justement.
Donc, il y a eu 62 jours en solo. Mm-hmm. Donc, dans l'itinéraire que je viens de vous décrire. Et les 8 dernières journées et un peu plus, dans le fond, là, j'ai marché avec ma conjointe, avec Carole, que j'allais rejoindre à Porto. Donc, on a marché au Portugal pour ces dernières journées. Pourquoi 62 jours,
monsieur? J'allais poser la question.
Parce que, effectivement, dans ma démarche de vie, c'est à 62 ans que Carole et moi, on a décidé de former un couple. Oh. On se connaissait déjà, mais qu'on a décidé d'être ensemble. Donc, pourquoi pas, dans le fond, la rencontrer à la 62e journée.
Et marcher encore 8 jours jusqu'à votre 70e anniversaire. C'est romantique, ça.
Ben, un peu, quand même.
J'ai une petite question. Est-ce qu'on peut trop se préparer, à votre avis?
Ah, mais il ne faut pas que la préparation devienne un peu... Il y a certaines personnes qui se préparent tellement que ça devient un peu un genre de réveil d'angoisse. Là. Ils ont peur, puis là, ils se mettent à avoir peur, puis là, ils lisent sur Facebook un tel a vécu telle affaire, on devrait se méfier de telle chose, etc. Donc, ça peut devenir un peu un genre de pépinière, de crainte, de peur, et même presque de paralysie, comme je disais tantôt quand on parlait du vertige. Un vertige, là, qui, cette fois-là, plutôt que donner des ailes, paralyse.
Oui.
Donc, il ne faut pas que ça devienne ça. Mais on ne peut pas trop se préparer, dans le sens que je pense qu'il y a comme une base qu'il faut se donner pour se libérer une fois rendu sur le chemin. D'ailleurs, c'était un peu ça cette année. Là. Je me rendais compte que sans que je m'en sois... J'avais fait 3 chemins. Donc, le quotidien devenait plus facile à gérer, me permettait, dans le fond, de certaines audaces au niveau des variantes, etc. Puis, donc, ça occupait moins de terrain. Mm-hmm. Je savais comment faire mon sac à dos, je savais comment manger. Donc, ça, c'était réglé. Donc, je pense que bien se préparer... sans non plus tomber dans quelque chose d'excessif, mais bien se préparer, avoir des bonnes bases de préparation, ça te libère.
Oui.
Puis ça permet, dans le fond, de te consacrer, de t'ouvrir à autre chose quand une fois rendu sur le chemin.
Donc, Compostelle, c'est effectivement de la marche. Le parcours, il a été de quelle longueur?
À peu près, je ne suis pas amusé à le compter au kilomètre près, mais je dirais 1400 dans ces eaux-là.
Okay.
1400, puis grosso modo, ça tournait autour d'une moyenne de 20-22 kilomètres par jour. Mm-hmm. Journée, beaucoup moins, puis je me streignais pas. Ce n'est pas pour moi du tout un terrain ou un chemin de compétition. Là. Mm-hmm. Donc, j'y allais aussi avec ce que j'avais le goût de vivre. Des fois, à un moment donné, je tenais, étant donné que surtout le bout de chemin sur le Camino Francés, je l'avais fait en 2014, il y avait moi, des incontournables. Donc, il y avait des lieux, des gîtes particuliers où j'étais allé en 2014, je l'avais vécu, je tenais à y retourner. Fait que s'il y avait juste cette journée-là 10 km à faire pour me rendre là, ben, je faisais 10 km. Je m'imposais pas un rythme de vie à tout prix. Mais si j'ai fait la moyenne de mes 70 jours, ça tournait autour de
22. Bon, c'est pas si mal quand même.
C'est correct.
C'est à répétition, c'est tous les jours.
Ouais, c'est de le faire à tous les jours. Parce que marcher une journée 20 km, ça va, mais c'est de le faire pendant plusieurs journées. Mais à un moment donné, on atteint un genre de... Tu sais, quand on parle du second souffle.
Oui.
Donc, on y voit notre rythme aussi en termes de... Pas obligé de courir, hein. On s'arrête, on prend des pauses, on prend des collections, des collations.
Oui, oui. Avant de passer à certaines destinations qui vous ont marqué, un mot ou deux peut-être sur la gestion du quotidien. Qu'est-ce que ça comprend dans votre cas, par exemple?
Ouais. Ben, en fait, ce qui était particulier, c'est la première fois que j'y allais l'été. Et là, il y avait eu, ce qu'il faut savoir, en Espagne et dans plusieurs pays, l'année d'avant, une canicule absolument incroyable. Là. Fait que je suis parti avec une certaine appréhension. Les gens disaient, comment tu fais? Tu voyais là en juillet, au mois d'août. Là, il y avait eu des feux de forêt, il y avait eu, etc. Et aussi, juillet, août, dans ma tête, moi, ça disait, hey, écoute, ça va être achalandé, là, il va y avoir du monde. Fait que je partais avec un... Je me dis, comment je vais gérer ça? Puis là, en fond, je m'étais dit, un, pour pouvoir gérer l'aspect chaleur, je me dis, ben, écoute, je vais partir plus tôt. Puis l'avantage de partir en juillet, c'est qu'il fait clair très tôt. Mm-hmm. Donc, ça permettait... de partir tôt sans partir à la noirceur parce que j'aime goûter à tous les instants de clarté. Donc, j'aime pas partir avec la lampe frontale à tout prix. Donc, je partais tôt, 6h15. Donc, vers midi et demi, mon 6h de marche était fait. Là. Donc, j'avais atteint mon objectif. Fait que ça m'a dégagé. L'autre élément pour régler l'idée de l'achalandage, malgré que là, je me suis fait vraiment... c'était un imprévu. En juillet, ce qu'il faut savoir... dans certains itinéraires, comme la Camino Francés, il y a une baisse d'achalandage.
Et pourquoi? Est-ce qu'on sait?
Les gens sont peut-être en vacances ailleurs. Les gens, je ne sais pas pour quelle raison.
La chaleur, peut-être?
Puis j'ai regardé les statistiques, autant au bureau d'accueil des Saint-Jean-Pied-de-Port qu'au niveau des statistiques à Santiago, à l'office del Pellegrino, il y a effectivement une baisse en juillet. Bon. Mais en même temps, pour faire face à l'achalandage, je fais toujours, ça je le fais pas juste cette année, là, je le fais tout le temps, je fais ce que j'appelle les inter-étapes. Lorsqu'on regarde tous les guides ou à peu près, ils suggèrent des étapes standards et donc tout le monde qui ont des guides arrête toujours à certains lieux. Mais moi j'arrêtais entre les étapes principales. Donc, c'était toujours, dans le fond, des destinations, des gîtes qui étaient très peu fréquentées.
Oui.
Donc, c'est comme ça que j'ai contourné la difficulté qui aurait pu en être une au niveau de l'achalandage, mais finalement, ça n'en est pas. Et l'autre élément, c'est que les gens, depuis la pandémie, il y a comme une crainte qui s'est installée. Parce qu'avec la pandémie, il y a eu aussi une baisse des au niveau des gîtes. Il y a des gîtes qui ont fermé, etc. Donc, les gens, à un moment donné, se sont mis à tout prix à vouloir réserver. Donc, pour ce qui est de l'Espagne en particulier, les réservations se sont faites dans les gîtes privés, parce qu'il faut savoir en Espagne que les gîtes municipaux, paroissiaux, les gîtes d'étape acceptent pas les réservations. Donc, c'est comme si les gens qui marchent se sont dirigés parce qu'eux tenaient à tout prix pour se sécuriser à réserver. Donc, ça s'est dirigé. L'achalandage s'est dirigé vers les gîtes privés. Moi, j'aime pas bien réserver. Donc, j'aime la spontanéité de pouvoir m'arrêter un peu quand je veux. Donc, je me retrouvais dans des gîtes municipaux, paroissiaux, où il y avait vraiment beaucoup, beaucoup moins de monde.
Vous m'aviez parlé avoir jeté un regard particulier sur le travail des hospitaliers, que je trouve très généreux.
Ah, tout à fait. Puis ça, je dirais que c'est peut-être mes lunettes de membre de l'association. Oui, oui. J'étais très impliqué depuis un certain nombre d'années.
Quel est le rôle de l'hospitalier?
En fait, c'est de veiller au bien-être du pèlerin. Bon, il y a un premier niveau, c'est de le sustenter, de lui trouver un lieu pour dormir. Mm-hmm. Mais en même temps aussi, il y a tout un travail d'écoute. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans beaucoup de gîtes, les gîtes d'étape municipaux, c'est des anciens pèlerins. Donc, c'est des gens qui connaissent bien le chemin, qui connaissent bien la nature de l'expérience pèlerine et qui nous accueillent un peu dans cet esprit-là d'ouverture, de générosité, de simplicité. Donc, c'est des gens qui, à la fois, veulent t'accueillir à un premier niveau, donc te donner tout ce qu'il faut. Si tu as des problématiques particulières au niveau de la santé, au niveau du sac à dos, au niveau de te rassurer au niveau des étapes à venir, ils sont toujours là pour t'accompagner. Mais je dirais, plus au-delà de ça, c'est eux qui sont, à mon avis, les dépositaires d'un legs précieux qui est la nature de l'expérience de la Compostelle. Et ils sont là pour le rappeler. Parce que, bien évidemment, avec la forte achalandage de l'expérience de la Compostelle, vient aussi certaines dérives, vient aussi une commercialisation de l'expérience.
Oui.
Dans certains cas, ça pourrait aller, si on y prend pas garde, à une
dénaturisation. Oui,
oui, de l'expérience. Oui, c'est ça. L'expérience qui se dit. Et donc, eux sont là pour faire un peu ce rappel-là que, donc, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de gens. Donc, j'aurais une démocratisation de l'expérience qui est un élément positif. Donc, ça permet davantage de gens de goûter à l'expérience. Mais il faut être vigilant pour pas dénaturer cette expérience-là.
Mm-hmm. Et ce sont des bénévoles, pour la plupart?
Bon, oui, la plupart, c'est des bénévoles. Oui. Des gens qui viennent pour une semaine ou deux semaines. Oui. Et l'autre élément intéressant, c'est que souvent les gîtes Donativo ou autres qui sont à la recherche d'hospitaliers, ils écrivent à la majorité des associations au niveau international. Donc, tu peux être à un moment donné, te retrouver en Espagne, être accueilli par un Allemand ou par un Hollandais ou par un Québécois. Donc, c'est des gens de différents pays. Et c'est souvent des gens qui, après un certain nombre de chemins, qui veulent vivre le chemin autrement, un peu par procuration, ben pas par procuration, il fallait surtout donner au suivant, faire profiter de leur expérience aux gens qui vivent l'expérience.
Vous m'aviez parlé aussi d'une jeune fille ukrainienne et de son père. C'est une des belles expériences.
Oui, oui, oui. Puis je pense qu'à ce niveau-là, je rejoindrais notre ami Michel, que je connais par ailleurs,
et qui
fait pèlerin ou marche et politique.
Marche et politique, oui.
Et je dirais que l'expérience que j'ai vécue, qui est une expérience marquante de mon chemin de cette année, j'ai rencontré au hasard, je me suis retrouvé à un moment donné à l'Ermitage Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, il faut dire, c'est tenu par une confrérie d'Italiens. C'est un gîte qui est très, très, très particulier. Il y a des chandelles. Et eux, pour manifester leur générosité ou leur désir de nous accueillir, ils ont gardé une tradition qui est la tradition du lavement des pieds. Donc, on est un petit groupe là, on partage bien entendu le souper et il y a un rituel de lavement des pieds. Bon, c'est dans ce gîte-là que j'ai rencontré cette jeune Ukrainienne-là, comme je dis jeune, peut-être trentaine, début quarantaine, avec son père. Son père vivait en Espagne depuis plusieurs années. Et, bon, bien évidemment, avec le contexte actuellement géopolitique, ce qui se passe en Ukraine, on est particulièrement sensible à ce qui se passe. Et cette jeune-là arrivait tout juste de l'Ukraine. Elle arrivait avec son fils, bon, qui était pour l'occasion. Oui. Elle arrivait avec son père. Et son mari était resté à la guerre. Et ces gens-là, quand ça a été très marquant, d'entendre leur histoire à cette occasion-là, mais ça a donné que, sans s'en parler, pendant quatre ou cinq reprises, poc, je me retrouvais une fois dans le milieu de... poc, eux autres aussi avaient choisi le même gîte que moi, le même village que moi, puis hop, puis on se fait...
Ce sont les coïncidences significatives.
On parlait tantôt de synchronicité, des expériences magiques du chemin, et c'en fut une. Oui. Et là, je vais en raconter juste une petite parenthèse. Oui. À Carrion de los Condes, qui est un lieu où je voulais à tout prix arrêter, parce que cette année, il y avait à la fois dans mon itinéraire, ce que j'appelle des choses nostalgiques, j'avais vécu en 2014, et découvertes. Donc, il y avait de la nouveauté. Il y avait un mélange des deux. À Carrion de los Condes, c'est les Augustiniennes qui s'occupent du gîte. Donc, c'est des moniales qui nous font chanter, etc. Puis qui nous accueillent d'une façon très personnalisée. Donc, c'est vraiment une belle expérience qu'on vit lorsqu'on arrête là. Donc, et faisait partie des 40 ou 50 qui chantaient avant le souper. Donc, ils nous font chanter des chansons de différents pays. Et il y avait le père et la fille ukrainiens qui étaient là. Et là, bon, ils nous font chanter, tout à l'heure. Puis à un moment donné, la fille, elle lève la main. Elle dit, est-ce que vous accepteriez qu'on vous chante la chanson de mobilisation du peuple ukrainien?
Oui.
Bon. Au niveau de la... J'en parle, puis je suis encore tout ému. Donc, les religieuses ont accepté. Et là, il s'est créé un silence monastique, pour prendre l'exemple du moine. Et là, il s'est mis à chanter, avec émotion. Et là, les religieuses écoutaient, puis tout le monde écoutait, là. Bien évidemment, c'était en ukrainien qu'ils chantaient, mais quelle émotion, là, c'était vraiment... Et là, ça nous ramène, effectivement, en disant, on est sur le chemin, on vit des expériences pour nous-mêmes, des expériences de transformation ou autre, mais c'est pas une expérience qui nous sort du monde. On est quand même dans ce monde-là, et en marchant en 2003, on peut pas oublier qu'il y a une guerre qui dévaste un pays qui s'appelle l'Ukraine, et ces deux personnes-là étaient là pour nous le rappeler. Parce que toute spiritualité, autant aussi grande soit-elle, elle s'incarne quelque part.
Oui.
Puis je pense qu'eux étaient là pour nous rappeler cette dimension-là qui est éminemment politique, mais qui est aussi éminemment... En tout cas, ça nous a émus tout le monde, ça a ému les religieuses aussi.
On le sent dans votre voix.
Et là, oui, c'était...
Alors, Denis, une autre petite courte pause, et on revient avec quelques moments forts, d'autres moments forts du Compostelle 70, et une question, qu'est-ce qu'on fait au retour? Oh là là! Nous sommes de retour avec Denis Dumais et son Compostelle 70. J'adore l'expression Compostelle 70. Des moments forts, il y en a eu plusieurs. J'aimerais en souligner un ou deux. Et un que vous m'avez souligné moi-même lors de notre entretien, plus tôt, vous aviez un texte à lire. Une lecture en français d'une prière du pèlerin.
Oui, effectivement, ça aussi, c'est un autre moment, beaucoup d'émotions. Et j'aime beaucoup parce que, à cause de certains problèmes d'audition, lorsque vous avez prononcé les moments phares,
oui.
Moi, j'ai entendu les moments phares.
Ah, et c'est un peu la même chose, là.
Fort
c'est
et fort.
Jeu de mots.
Bon jeu de mots, je me suis dit, c'est des moments phares aussi. C'est des moments forts, mais des moments phares. Voilà. Donc, à Osobrio, ce qu'il faut savoir, c'est sur le Camino Francés, qui part dans le fond de Saint-Jean-Pied-de-Port jusqu'à Santiago, Fisterra, Mucha. Souvent, les gens pensent que le sommet le plus élevé, c'est la traversée des Pyrénées. Effectivement, oui. On monte aux alentours de 1400, c'est important, mètres. Mais à Osobrio, c'est le sommet le plus élevé. Je pense qu'on est à 1500 quelques. Bon. Et là, il y a un village, et il y a une paroisse. Et cette paroisse-là, dans le fond, ouais, j'oublie le nom du curé. Il y a quelqu'un qui a été curé pendant très longtemps et c'est un des curé qui a été très présent au niveau de la mise en valeur des chemins de Compostelle. Et lorsqu'on se retrouve en Espagne, on voit un peu partout dans le balisage, dans la signalisation, les flèches jaunes. C'est lui qui, je pense à la fin des années 60, début des années 70, il a décidé à un moment donné pour mettre en valeur les routes de Compostelle. Mais il dit, c'est bien beau faire de la publicité pour que les gens viennent de marcher, mais ils vont se perdre. Donc il est parti avec un galon de peinture jaune, puis avec un certain nombre de jeunes, puis là, ils sont allés baliser là, avec une flèche jaune un peu partout pour qu'il y ait des points de repère.
Oui.
Donc, tout ça pour dire qu'autour de ce village-là, de la petite chapelle, qui est une chapelle du 12e siècle, qui est maintenant animée par les communautés franciscaines, donc c'est toujours un moment un peu particulier lorsqu'on arrive dans ce petit village-là. Donc, j'ai assisté à la messe qui avait lieu après le souper, et c'est toujours, bon, dans certains lieux où il y a des messes, souvent il y a des bénédictions du pèlerin, donc des moments forts avec les pèlerins après la messe. Mm-hmm. Donc là, où on nous invite, tous ceux qui étaient pèlerins, là, on devait peut-être être 30 ou 40, donc aller devant. Et là, il y a un moine franciscain qui était là, qui faisait un peu l'animation. Et là, à brûle-pourpoint, il nous demande, bon, lui, il avait comme une prière avec des paragraphes, des strophes, dans le fond, dans différentes langues. Ils cherchaient, dans le fond, différentes personnes pour lire les différentes strophes. Puis ça donne que le francophone qui a été choisi, mais je pense que j'étais le seul. Donc, ils n'ont pas eu le choix, finalement.
Non, c'est une coïncidence.
C'est une coïncidence significative. Et ce qu'il faut savoir aussi, mais on n'a pas le temps nécessairement d'en parler longuement aujourd'hui, mais pour moi aussi, parce que l'élément religieux a été un peu omniprésent dans mon parcours de vie. Donc, à la fois, j'ai étudié en théologie, j'ai fait partie d'une communauté religieuse de base pendant longtemps. Donc, le religieux a toujours été omniprésent. Je dirais pour le meilleur et pour le pire. Dans le fond, à la fois, il y avait donc derrière ça se cachait une quête de spiritualité.
Oui.
En même temps, étant donné que j'ai vécu beaucoup d'expériences religieuses, ça m'a rendu aussi sensible à ce qui se passait. Puis parfois, malheureusement, il y a des expériences religieuses qui sont plus ou moins heureuses. Donc, j'étais particulièrement sensible ou heurté parfois par certains éléments du religieux. En tout cas, Donc, me retrouvant dans une église à devoir réciter. Mais là, l'église était vide. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en U. Moi, j'étais devant. J'avais à réciter quelque chose, un paragraphe en français. Puis là, c'est comme si toute cette réconciliation, cette difficile réconciliation parfois entre ma quête d'intériorité, de spiritualité et l'univers du religieux, là, c'est comme si ça prenait un autre. Ça permettait, je dirais, de réconcilier. L'église était vide, mais c'est pas grave. Elle était vide, mais ça, même si elle était vide, pour moi, il y avait quand même cet élément de spiritualité qui était, même si nos églises se vident, je me dis, cette recherche profonde de spiritualité, elle demeure, elle s'incarne autrement, quels que soient les siècles, les périodes, mais en même temps, il faut se raccrocher à ça. Parce que si on se raccroche juste à ce qui est un peu extérieur à la spiritualité, on peut peut-être être vite déçu ou désenchanté, alors que si on s'accroche à ce qui fait un peu le fond, on y trouve une certaine dose d'espérance.
Est-ce que ce quatrième Compostelle a bien rempli sa mission d'audace et d'abandon?
J'allais dire, l'avenir le dira, parce que je me dis, bon, écoute, là, on était au mois de mars, donc je suis revenu au mois d'octobre, mais c'est encore trop tôt. Là, c'est comme si le chemin, il commence toujours au retour, hein. Donc c'est difficile d'en voir les fruits, mais ben, en même temps, en parler aujourd'hui, c'est une occasion que j'ai. C'est un peu la première fois que j'en parle un peu publiquement, et surtout d'une certaine pudeur à parler de notre expérience. On veut à la fois pas la trahir, on veut la traduire, on veut pas la trahir. Puis c'est toujours un peu frêle parce qu'on vit des choses qui à la fois naviguent entre le monde, la compréhension, puis le domaine des émotions, puis l'intelligence.
Et ça va toujours évoluer, mûrir.
Oui, puis le fait que je l'ai campé dans une expérience de genre de retour sur 70 ans de vie, ça faisait en sorte aussi que je lui donnais aussi une dimension qui peut donner un certain vertige.
Oui.
Puis en même temps, ben, je me dis, c'est comme si ma marche actuelle, un incontournable qu'il y avait, c'était aussi la marche du vieillissement. C'est un incontournable, j'ai 70 ans, je peux pas faire comme si j'avais 20 ans. Donc je me dis, oups, mes prochains chemins, cette dimension-là du vieillissement en fait partie et je vais devoir l'apprivoiser.
Ben justement, au retour, quelles sont les émotions qui vous habitent, les sentiments qui vous habitent?
Ben, je pense que la première, puis ça touche un peu ce que je viens de dire, je pense que ça nous crampe dans une certaine urgence de vivre. Tu sais, souvent, quand tu as 20 ans, tu as l'impression que tu as un temps éternel devant toi. Bon, quand tu as 70 ans, bien évidemment, déjà autour de toi, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui ont des problèmes de santé.
Oui.
Bon, moi, j'ai la chance de pouvoir encore, puis c'est pas une primeur, mais j'y retourne cette année marcher.
J'allais poser la question.
J'y retourne cette année. En même temps, ben, je suis très conscient que j'y retourne avec aussi... en arrière-fond, j'y retourne parce que j'ai à la fois la santé, le temps, la forme suffisante. C'est pas tout le monde qui a ce privilège-là. D'où, je dirais que les prochains chemins, je veux vraiment les faire en profonde gratitude pour cette vie, pour cette forme qui m'est donnée. Je pense que ça va teinter à la fois le retour, mais à la fois aussi ce qui pourrait devenir des prochains chemins.
Vous en avez parlé au début de l'émission. Votre entourage, la communauté autour de vous, comment on vous a accueilli?
Oui. Ce qui est particulier cette année, c'est que j'avais pris une décision. En 2014, pour toutes sortes de raisons, j'avais comme créé un groupe Facebook d'une trentaine de personnes, des amis avec qui je correspondais, ils me répondaient. Ça avait occupé, j'avais trouvé ça super intéressant à l'époque, là. Ça avait occupé beaucoup d'espace, je dirais, au niveau de l'expérience elle-même. Cette année, j'ai décidé de ne pas faire ça. Bon, j'avais comme créé un tout petit groupe qui était mes proches, là. C'était mes enfants, ma conjointe et tout ça, mais vraiment un petit groupe. Donc, pour une des choses qui a facilité le retour, c'est qu'à un moment donné, puis ça, c'était pas du tout prévu. À ma 25e journée de marche, et là, c'est drôle parce que le parallèle que je faisais entre une journée et une année, c'est qu'à un moment donné, quand je suis arrivé à ma 25e journée, j'avais 25 ans. Je me dis, c'est-tu le fun? Je marche comme si j'avais 25 ans. Puis là, à un moment donné, m'est venu, qu'est-ce qui s'est passé, Denis, dans ta vie à 25 ans?
Oui.
Ben, c'est ma fille, ma première, Salia, qui est née.
Wow.
Et là, à partir de ce moment-là, là, je me suis mis à écrire à des personnes. Donc, je lui ai écrit une lettre à elle. Deux ans plus tard, j'en ai écrit à une autre enfant. Après ça, lui, il est devenu des amis. Là, c'est comme si je me suis rappelé l'exercice que j'avais fait de préparation au début en disant, en identifiant des personnes significatives ou des événements significatifs. Et là, je me suis permis de leur écrire une lettre en disant, t'as été significatif dans ma vie. Là, j'avais 30 ans, on a travaillé ensemble, où on était dans la même communauté, où on était collègues de travail, où t'es mon enfant, t'es ma conjointe. Et là, j'ai écrit à, où t'es ma tante qui a 96 ans.
Oui.
Donc, j'ai écrit à une vingtaine, 25, 26 personnes durant le chemin. Donc, c'est comme si j'avais préparé mon retour. Donc, ces personnes-là, eux, quand je suis arrivé, J'avais pas besoin de commencer à zéro. Il y avait déjà eu un genre de souffle du chemin. Donc, souvent, les gens qui reviennent se plaignent en disant, oh, j'ai pas autour de moi des gens qui sont sensibles à mon expérience.
Ils veulent pas savoir.
Alors que c'est comme si moi, j'avais comme préparé cette piste d'atterrissage-là avec des gens que j'aimais.
Denis, il nous reste quelques minutes à peine, malheureusement. Une autre question. À votre avis, qu'est-ce qui a le plus changé dans votre façon de voir la vie?
C'est difficile parce que, j'oserais dire, c'est de la regarder en face.
Oh, la réalité.
Oui. Puis là, je fais référence, puis dans les expériences que j'avais identifiées, moi, j'avais rencontré, suite à l'expérience de l'ermitage de Saint-Nicolas, j'avais croisé sur l'heure du midi, beaucoup plus tard, une Allemande. Mm-hmm. Qui m'avait surprise par sa sagesse, parce qu'elle me disait, elle dit, Denis, elle dit, je pense qu'il faut dans la vie être capable aussi de regarder le côté sombre de la vie. Puis elle me parlait d'expériences qu'elle avait vécues avec un de ses amis qui s'était suicidé, etc. Mm. Puis elle dit, faut pas y voir un élément négatif en acceptant de poser ce regard-là. Mais elle dit, notre regard serait incomplet si on n'accepte pas aussi de s'ouvrir à ça. Puis je trouve que regarder la vie à 70 ou 71 ans, ça devient un incontournable. On regarde la vie dans ce qu'elle a d'heureux, mais aussi dans ce qu'elle a de fragile. Fait que je pense qu'en acceptant de la regarder dans ce qu'elle a de fragile, ça nous permet d'avoir un peu une plénitude dans l'expérience.
Eh ben, une dernière question. J'ai le goût de vous demander... Qu'est-ce que vous diriez à celles et ceux qui se préparent à partir?
Vous allez trouver ma réponse un petit peu courte. Audace,
audace
et abandon.
Alors, Denis, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir fait preuve d'audace et d'abandon en participant à notre émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup et j'espère que nous aurons l'occasion de poursuivre la conversation un jour.
Merci pour l'accueil qui est toujours au rendez-vous.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marché vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions archivées, ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode, dont celui d'aujourd'hui. Merci à notre... Compostelle 70, j'adore l'expression. Merci à Denis Dumais. Merci également à Lysandre Duplé, notre sympathique maître de la régie. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée de, justement, Joseph Campbell. Nous devons être prêts à abandonner en chemin la vie que nous avons imaginée afin de vivre la vie qui nous attend ici. Et maintenant. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.